Ceux qui sont en enfer l'ont choisi.
Le plus grand désir de Dieu, c'est qu'aucun homme n'y aille. Si un homme y va, c'est donc par lui-même qu'il y va.
Celui qui va en enfer, nous l'avons déjà dit, il va volontairement.
L'enfer, c'est pas une punition quand on s'est trompé. Ça n'aurait pas de sens. C'est un choix volontaire de ceux qui refusent Dieu.
Les enfants morts sans baptême vont au paradis.
C'est faux.
Bonjour à tous, mes BG Galbé. Nouveau drama apologético, apocalyptico, cocalyptonico, métaphysique qui va me faire reprendre la parole sur la seule vraie question intéressante en religion qui est la vie après la mort. La destination finale, selon certains, après l'échauffement insatisfaisant de nos existences mornes où la norme semble être la souffrance et son odeur de soufre rance. Alors déjà, petit préambule, je ne suis pas militant athée, je suis un intuitionniste hypersensible semi-grossier qui vient approfondir certaines thématiques, certains aspects en religion pour faire évoluer et élever la conscience humaine, voilà tout. Alors je replace le contexte. Dans une vidéo antérieure, je parlais de la toute-puissance de Dieu et je montrais un extrait du livre de Mathieu Lavagna dans lequel il affirmait que lorsque les gens vont en enfer, Dieu ne peut plus rien pour eux. Et juste après j'ajoutais, donc pour Mathieu Lavagna, Dieu n'est pas tout-puissant. Et récemment, Mathieu m'a contacté.
Mathieu prétend que sa position n'est pas contraire à l'omnipotence de Dieu, parce que dans le théisme classique, l'omnipotence de Dieu est définie comme la capacité de faire tout ce qui est logiquement ou métaphysiquement possible. Or, selon lui, il n'est pas logiquement possible de forcer quelqu'un à aimer Dieu librement. Si Dieu force quelqu'un à faire quelque chose, alors cette personne n'est pas vraiment libre. Et si cette personne est vraiment libre, Dieu ne peut pas, enfin ne pourrait pas le forcer. Ainsi, la proposition « forcer quelqu'un à faire quelque chose librement » serait une contradiction en soi, et Dieu ne peut pas faire des choses contradictoires. C'est ça la position de Lavagna, et c'est la position du catéchisme et de tous les apologètes de YouTube.
Donc il m'a demandé de retirer ce passage. Et après réflexion, je me suis dit qu'effectivement, quelqu'un qui ne connaîtrait ni Mathieu ni moi pourrait croire que Mathieu défend explicitement une position marginale ou hérétique. Alors Jésus dit à Mathieu, enfin Jules dit à Mathieu, moi je lui ai dit, Jules et Jésus c'est l'anagramme de Jules un peu. Ok, je vais retirer ce passage, il n'y a aucun problème mec. Mais du coup je vais faire une vidéo pour expliquer en quoi, pour moi, malgré tout, je continue à penser que sans le vouloir, toi Mathieu et les autres, hein, Raffray, le cateau de service, Bonassi et le catéchisme en général, vous aboutissez à un Dieu qui n'est pas tout puissant ou pas bienveillant ou qui a créé un monde mal foutu. Donc mes amis, aujourd'hui c'est une vidéo assez importante, je vais tenter de débunker ce qui est selon moi l'un des plus grands impensés, peut-être des plus grandes fraudes, ou des problèmes, en tout cas intellectuels, existentiels et psychologiques du narratif religieux. Donc je parlerai du catholicisme, parce qu'en islam, en général, les gens ont moins de problèmes avec l'idée d'un dieu qui punit sévèrement, parce que leurs textes, tout simplement, sont plus violents et explicites. Et on va commencer, je vais partir d'un narratif, d'un discours auquel souscrivent les chrétiens et qu'on entend partout maintenant. Donc ce discours, c'est le suivant. Les gens vont eux-mêmes en enfer. Dieu, en revanche, ne peut pas sauver quelqu'un de l'enfer parce que ce serait contradictoire avec le fait qu'il a créé des hommes libres de refuser le pardon. Et il a créé les âmes éternelles, donc elles sont damnées éternellement. Alors ça, c'est le narratif. Donc maintenant, nous, on va reprendre tout ça et on va zoomer là sur un cas concret. Donc là, on a une personne. Alors ok, elle meurt. Elle est face à Dieu, elle a le choix. Et elle fait... Vas-y, 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 je veux pas de ton pardon, là, je suis trop orgueilleux, machin, vas-y, tu sers à rien, Dieu, vas-y, tu vois. Un peu comme les gens Kevin Cassos qui refusent l'aide de Pascal le grand frère en préférant rester des racailles au lieu d'évoluer. Donc le mec, il dit, vas-y, vas-y, Dieu, je m'en fous, vas-y, pas besoin de toi. Donc, ok, la personne, elle est damnée. Donc, elle est en enfer. Elle est dans un état de tourment qui n'a pas de fin. Elle devient une entité de malheur permanent. C'est ça, l'enfer. Donc, elle n'avait pas expérimenté l'état d'être en enfer et celui d'être au paradis avant son choix. Parce que l'option A, paradis, c'est le bonheur, la paix, la joie, le plaisir. Option B, l'enfer, c'est le tourment, l'angoisse, la souffrance, etc. Ou en tout cas, ce sont des états d'âme qui correspondent à peu près analogiquement avec ses sentiments humains. Si on doit faire des comparaisons, même si c'est supposé être dans l'au-delà, vous voyez ce que je veux dire. Et soit elle s'y sent bien, soit elle y souffre. Alors, on va exclure la possibilité qu'elle s'y sente bien, parce que sinon, il n'y aurait même pas de sujet. Alors maintenant, on va faire un petit point. Il y a une vérité qui concerne la condition humaine et qu'il faut affirmer en préambule. L'individu cherche à fuir la douleur. Même quand il se drogue, et c'est universel, hein, même quand il est masochiste, quand il s'immole ou que sais-je, ces chants du cygne, parfois spectaculaires chez l'humain, ont toujours pour but, à terme, de ne plus souffrir et d'aller vers du mieux, ou vers de la paix. Et il faut admettre ce point pour partir sur de bonnes bases. Dire qu'un être humain choisit l'enfer, au sens d'une souffrance absolue et éternelle, implique une contradiction psychologique et même existentiologique, si vous voulez, et même volontologique, hein, la logique de la volonté. C'est impossible, c'est impensable, c'est une contradiction logique, parce que ça reviendrait à soutenir qu'une conscience pourrait choisir librement ce contre quoi toute sa structure psychique, biologique et existentielle est orientée. Donc on exclut cette option de choisir en connaissance de cause. D'ailleurs, même un provocateur sataniste, un interradical anti-religieux carabinet qui dirait qu'il choisirait l'enfer n'en expérimente nullement la réalité au moment où il dit quand il a envie. Il brandit un mot associé à une projection imaginaire, ça n'a rien à voir avec la réalité de l'état. Hein. Affirmer une chose n'est pas vivre une chose. Fanfaronner, vouloir l'enfer ou ne pas vouloir le paradis, ça devrait pas être pris au sérieux. Combien de gens m'ont déjà dit oh, « j'ai pas envie d'aller au paradis, franchement, on doit s'y emmerder ». Mais vous croyez vraiment que ontologiquement, on peut en tirer des conclusions à partir de commentaires comme ça que les gens y font? Ça n'a strictement aucun sens. Donc voilà, on peut pas proposer un modèle crédible à partir de prémices viciées et erronées. Donc, c'est impossible de vouloir rester en enfer et de choisir en connaissance de cause réelle.
Mais le religieux va nous dire, c'est pas qu'il choisit consciemment et volontairement l'enfer, c'est qu'il refuse Dieu, c'est pour ça qu'il va en enfer.
Celui qui va en enfer, nous l'avons déjà dit, il va volontairement.
Donc on continue la vidéo, on retourne à l'être humain qui a foutu ses pieds en enfer. Alors il était bête, il était borné, il était orgueilleux, tout ce que tu veux, mais maintenant, en vertu de ce que l'on sait de la condition humaine et de l'enfer, il ne peut de toute façon plus que vouloir s'extirper de cet état, de cette condition. De ce lieu, si vous voulez. Et donc Dieu, dans cette histoire, et face à cette mécanique qu'il a créée, parce que c'est Dieu qui a paramétré le monde, ses rouages et les conséquences possibles et potentielles qui en découlent, donc face à ces âmes désormais embourbées en enfer dans ce formidable CDE, ce contrat à durée éternelle, il y a deux solutions pour Dieu. Soit il ne veut pas délester ses enfants de leur souffrance en annihilant leurs âmes ou en les purifiant, soit il ne peut pas, tout simplement. Alors admettons qu'il ne peut pas, parce que les apologètes vont dire « mais ce serait une contradiction, il ne peut pas empêcher la personne de refuser le pardon ». Alors oui, si vous voulez, mais ça, on y a déjà répondu. La personne a fait le mauvais choix en mauvaise connaissance de cause, sinon ce serait une contradiction qu'elle le choisisse lucidement. Or, maintenant, cette souffrance, elle s'oppose nécessairement à sa volonté qui est d'échapper à la douleur. Sauf que là, le problème, c'est que il est en enfer et il peut pas s'en émanciper en vertu du paramétrage physique, enfin métaphysique et global de l'univers fait par Dieu. Et là, les religieux, ils vont dire et ils vont ajouter, bah écoute, Dieu, il a créé les âmes pour être éternelles. Donc l'âme, elle reste en plus éternellement dans l'enfer. C'est tout à fait logique. Et là, c'est très important. Là, il y a sinon un sophisme, au moins une confusion énorme. La fausseté de la contradiction logique. Le théologien, il confond volontairement ou non deux choses. Une impossibilité logique réelle et une décision théologique postulée comme intangible qu'il présente comme une impossibilité logique, mais qui n'en est pas une. Imaginez un cercle carré, un célibataire marié ou la forme en soi d'une couleur, ça c'est impossible. On ne peut même pas le penser, on ne peut même pas l'imaginer de façon cohérente. Peu importe Dieu ou pas Dieu, mais les affirmations sur l'enfer éternel ne sont pas des contradictions logiques. Quand on dit Dieu a créé les âmes éternelles, la liberté implique la possibilité d'un refus éternel, le choix est définitif et fixé une fois qu'il est pris, tout ça ce ne sont pas des vérités logiques au sens strict. Et dire que ça pourrait en être autrement, ça n'est pas du tout se vautrer dans des contradictions logiques. Ces choses-là, ce sont des hypothèses théologiques ou métaphysiques. Mais une autre hypothèse serait de dire qu'un père qui aime ses enfants annihile à terme une souffrance, même contre la liberté immédiate de l'individu. Ou alors que Dieu annihile les âmes damnées ou modifie leurs conditions en accord avec leur volonté de ne plus souffrir. Il n'y a aucune contradiction logique là-dedans. À vous entendre, les théologiens, Dieu y pourrait vouloir les sortir de là, de l'enfer, mais se dire « Ah bah merde, j'ai créé les âmes éternelles et figées à la mort, Donc ce serait une contradiction logique qu'il en soit autrement. Bon bah tant pis, elles vont y rester.
Donc vous faites passer une interrogation intuitive et légitime sur le choix de paramétrage du cadre métaphysique général de l'univers sous le coup de « Ah bah non, c'est une contradiction logique ».
Mais justement, nous là, c'est ce cadre qu'on interroge. On n'est pas en train de parler, on n'est pas en train de faire un gag avec une pierre si lourde que Dieu il peut pas la porter. Et de toute façon, même si Dieu ne pouvait pas la porter, il pourrait faire des miracles quand une pierre est lourde. À Lourdes, il y a des miracles, non ? Donc voilà, bref, on n'est pas en train de faire des blagues. Donc on peut pas dire « C'est pas Dieu qui est responsable », ce serait une contradiction logique. Alors comme si on dédouanait Dieu. Non, 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 non. Dieu est responsable, il se porte garant du système qu'il a créé, c'est tout à fait logique et c'est une contradiction logique de prétendre l'inverse. En termes d'économie réelle de la souffrance vécue, laisser donc des âmes en enfer éternellement, ça choque le sens moral inné de tout le monde et c'est normal. Voilà, c'est normal. Et face à ça, le religieux, son astuce, c'est que au lieu de justifier moralement et rationnellement le châtiment éternel, comme il pourrait justifier simplement moralement ne pas tuer, ne pas voler, etc., il doit faire un détour en construisant une phénoménologie fictive qui se passe dans l'au-delà, à base de dilemmes et de pardon et de liberté, pour finir par dire que ça serait contradictoire, que ça n'aurait pas de sens, que finalement c'est le damné qui choisit, etc., etc., voilà. Tout simplement parce qu'il n'arrive pas, en soi, à justifier la peine éternelle de l'enfer. C'est pour ça qu'à chaque fois, ils font des euphémisations, des détours et des constructions extrêmement biscornues pour justifier quelque chose qu'ils n'arrivent pas à justifier en leur âme et conscience. Et ils le savent. Et il y en a aussi qui vont dire... Ce n'est pas Dieu qui maintient le pécheur en enfer, le pécheur continue de pécher éternellement, il pêche éternellement. J'entends ça, Mathieu Lavagna me l'avait dit lors de mon dernier débat avec lui, t'as des mecs dans 500 milliards d'années qui vont continuer encore à faire des dingueries mentales en boucle, ils vont faire des coups de schlasse, ils vont bouder l'amour de Dieu par orgueil dans des milliards d'années pour continuer à souffrir. Je veux dire, mais une âme, si c'est réaliste un peu le truc, une âme, elle en a pas marre de souffrir et d'être un puits sans fond de douleur. Ça ressemble surtout à une affirmation produite pour colmater le problème principal. Pourquoi la fixité éternelle ? Et c'est ça qui pose problème intuitivement. Ça ressemble plus à une pathologie ontologico-psychiatrique ou à un sketch qu'à la description de quelque chose de plausible. Et pour tous les gens qui sont dubitatifs, c'est la même chose. Et c'est logique pour toutes les raisons que je vous énonce. Pour vous, Dieu a choisi que quand t'es mort, c'est figé pour l'éternité et sans changement. Mais s'il est bon...
Le plus grand désir de Dieu, c'est qu'aucun homme n'y aille.
Quel sens cela a-t-il de paramétrer un monde où la souffrance ne s'arrête pas, ne s'arrête plus ? Est-ce que ça dénature pas toute la définition qu'on peut donner au terme ? Parce que, à la fin, vous dites qu'il est bon, vous le dites par récitation automatique du dogme et du catéchisme, mais est-ce que ça tient réellement, rationnellement ? Et en fait, il est là précisément le problème. Ça choque et ça semble disproportionné à tout le monde. Ça choque, enfin à tous les gens qui sont neutres, hein, qui sont pas déjà englobés dans le narratif et qui ont ce logiciel implémenté en eux. Et le religieux, il trouve juste à dire que c'est un argument émotionnel. Mais attendez, on va faire une expérience de pensée. Si Dieu, il disait... que 99% des gens vont souffrir éternellement. Est-ce que vous diriez aussi que c'est bon ? Parce qu'il y en a qui le disent quasiment, écoutez le vieux prêtre là.
On peut espérer que tous les hommes soient sauvés.
Étroite et resserrée est le chemin qui mène à la vie éternelle, et peu nombreux sont ceux qui le prennent. Donc ça veut dire que le plus grand nombre des hommes se damne. C'est ce qu'on appelle le petit nombre relatif des élus qui a toujours été l'enseignement de l'Église pendant 20 siècles.
Très bien, merci.
Bon, vous auriez du mal à l'accepter. Vous auriez aussi du mal à accepter comme crédible qu'on torture des gens qui éternuent le jeudi, par exemple. Ça n'a aucun sens. Mais après tout, si tout ce que Dieu fait devient automatiquement bon, puisqu'il est la norme du bien, bah il faudrait que vous soyez d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais vous diriez, non, 99%, ça semble trop, c'est hyper intuitif, torturer des gens parce qu'ils éternuent, c'est absurde, etc. On est d'accord. Ouais, mais 50% des gens, alors en enfer, ce serait ok ou pas ok ? Je veux dire, en fait, à partir de quand Dieu devient finalement moins gentil ? Ça, en fait, ça devient circulaire et c'est impossible à évaluer si la croyance devient la mesure de tout jugement. Si dans les évangiles, il y avait marqué que les méchants, au bout de 100 000 ans, ils se réconcilient avec Dieu, vous seriez les premiers à expliquer que c'est rationnel, que le mal ne s'éternise pas. Et ça vous paraîtrait beaucoup plus évident et d'ailleurs, ce serait plus facile à défendre. Plus facile à défendre, dire que la dissonante souffrance fixe éternelle. Et moi, je pense que, En fait, bien que le croyant y valide le catéchisme par adhésion dogmatique, il y jette aussi, on va dire, le regard de sa morale intuitive, son bon sens spontané, ses repères humains les plus immédiats. Comme je le disais, si un enseignement il affirmait que 99,9% des gens iraient en enfer, beaucoup de gens le rejetteraient instinctivement, ils diraient c'est absurde et monstrueux. Mais je pense qu'il y a certains excès, perçus comme contre-intuitifs, comme la fixité de l'enfer éternel en souffrance, qui sont acceptés à coup de mécanismes de rationalisation théologique, parce qu'ils sont en fait déjà intégrés dans une structure et un ensemble de dogmes qui sont considérés comme sacrés et vrais a priori, à l'avance. Et je comprends psychologiquement la peur de l'enfer, le pari de Pascal, etc. Mais ça engage forcément la neutralité du théologien et du croyant, pour pas dire la franchise, et même pour pas dire le courage. Moi, quand j'entends que ce serait un argument émotionnel de dire que l'enfer éternel c'est abusé, moi je retourne la critique. Vous dites que le gars sceptique et tout qui rejette l'enfer éternel parce que ça lui fait peur, c'est émotionnel. Mais moi j'affirme que tu refuses d'admettre que c'est exagéré et absurde parce que tu t'estimes partie prenante et que t'as peur d'y aller en enfer. Donc en fait c'est une inversion accusatoire. C'est chez le croyant que la rationalisation de la validité de l'enfer a un a priori émotionnel extrêmement craintif et horrifié, pas chez le sceptique. Et d'ailleurs, moi je dirais au passage que c'est un terrain dangereux et très peu christique, on va dire, de prétendre qu'une objection soit émotionnelle. Parce que sinon, on peut dire que tout est émotionnel. Si c'est Dieu la mesure de tout, la peine de mort pour apostasie en islam, on peut dire que c'est émotionnel. Les 100 coups de fouet en place publique pour une relation S en dehors du mariage, on peut dire que c'est émotionnel. Et il y a de l'émotionnel dedans, certes. Mais en fait, dans la vie, en réalité, selon la morale naturelle dont parle la religion catholique d'ailleurs, spontanée, tout dans la nature, c'est une question de mesure et de dosage. Personne, dans l'optique d'un dieu qui existe, ne trouverait ça incohérent qu'il y ait une certaine forme de justice. Même les athées. Et dans la morale innée, oui, il y a de l'émotionnel. Mais le truc, c'est que le bon sens des théologiens ou des croyants, il a quand même été anesthésié par moments. Alors, assez peu dans la masse catholique, mais quand même encore un peu sur la notion d'enfer. Dans la masse musulmane, par exemple, on peut voir quand même que les gens sont encore beaucoup moins libres, et le croyant moyen peut très bien te dire qu'une gentille mamie qui n'a juste pas la bonne religion alors qu'elle a entendu parler une fois de Mohamed, elle va aller en enfer éternellement. Il y en a qui me l'ont dit, c'est des choses qu'on peut entendre. Chez eux, la morale ou le bon sens spontané, enfin ces trucs-là, tout ça c'est occulté par la terreur de Dieu. Et chez les catholiques, ça l'est beaucoup moins mécaniquement parce que l'évangile, il est plus doux. Et on a une tradition philosophique qui nous fait prendre du recul sur tout ça. Et vous voyez, c'est une question de dosage, d'accoutumance peu à peu à la terreur de Dieu, etc. Tout peut s'expliquer par la psychologie. Et par exemple, les théologiens et les croyants, vous reprochez beaucoup à Lorem Law, à Arthur Haynes ou à Abstiners, pour ceux qui les connaissent et qui représentent un peu, on va dire, le courant athée sur Internet. Vous leur reprochez de dire que l'enfer s'est abusé en disant qu'ils ne comprennent pas la théologie. Mais croyez-moi, moi qui suis beaucoup moins anti-religieux qu'eux, moi je suis contre les excès, mais je peux être compatibiliste, on va dire. J'aime les figures épiques puissantes qui fédèrent. Moi je préfère largement la figure du Christ à la notion abstraite des droits de l'homme. Je trouve ça beaucoup plus grandiose. Mais bref, c'est pas la question. Ces mecs-là, ils ont très bien compris la théologie, le fond de la théologie. Ils l'ont très bien compris. Croyez pas que c'est des mecs qui captent pas aussi bien que vous et tout. Je vous assure que l'état normal, c'est bien de penser que c'est une dinguerie l'enfer, éternel, fixe, etc., personnel. Et moi, je prends le temps comme ça d'en détailler le fonctionnement. Mais si vous croyez à l'enfer parce que c'est Dieu qui l'a dit et que vous croyez en Dieu, vous ne pouvez pas reprocher à un musulman de penser que tous les koufars, ils vont aller en enfer et être torturés dans la lave, parce que lui, il a le même protocole que vous. D'accord ? Et le truc, c'est que vous croyez à l'enfer éternel et fixe parce que c'est marqué et parce que vous croyez à la base. Vous croyez pas parce que le modèle vous semble cohérent. Le modèle vous semble cohérent parce que vous croyez. Donc, on va récapituler votre position. Et là, je parle à tous les croyants, entrepreneurs, voilà, Lavagna, le cateau de service, tous ces mecs, Aberafray, machin. Bonassi. Votre position, c'est que Dieu, il a paramétré un monde qui peut mener à une souffrance personnelle, éternelle, non modifiable, totalement arbitraire. C'est Dieu qui a choisi tout ça. Ce qui est totalement arbitraire, c'est surtout le non modifiable. Ça n'a, y a rien qui prédispose à dire que ce serait logique. Il aurait pu tout simplement choisir que la souffrance ne soit pas éternelle par annihilation ou transformation, mais il ne l'a pas fait. Donc Dieu devient responsable. Donc responsable, ça veut dire, je le répète, se porter garant d'eux, donc de la maintenance des rouages qu'il a lui-même fondés. C'est totalement logique, d'un monde dans lequel des millions, voire des milliards d'âmes sont passés de l'inexistence, tranquille, à la vie, bordel, faut se lever le matin, puis à la souffrance éternelle. Wesh, wesh, ça fait mal. Et en fait, pour vous, c'est ok, comme on dit, c'est ok. Et pas besoin de vous justifier, les gars. Si vous êtes ok avec ça, j'ai même envie de vous dire, ma vidéo, elle vous sert à rien, elle vous sert pas à grand chose. Vous avez juste à dire que vous croyez, vous montrez les passages sur le jugement dans l'évangile, et voilà, vous vous en foutez, vous passez à autre chose. Vous avez même pas besoin de dire que Dieu ne punit pas, etc., machin. Vous dites que c'est un châtiment, d'ailleurs Jésus le dit, il n'y a même pas besoin d'essayer de mettre, d'adoucir le truc pour convertir les fous. De toute façon, ils se font pas avoir, les gens, ils arrivent à réfléchir. Et tout le reste, là, la volonté antécédente et la volonté conséquente, la liberté du refus par amour, toutes ces trucs, ce sont des médiations conceptuelles et des slogans spirituellement corrects qui servent à rationaliser le dogme principal et la démesure du fait, la démesure intuitive du fait de l'enfer éternel fixe, etc. Ne vous scandalisez pas s'il y a des gens qui disent que la miséricorde de Dieu infinie n'est pas infinie, mais finie, car elle s'arrête, en fait, là où commence l'infinie douleur des âmes bloquées en enfer, selon votre modèle. Parce que c'est assez logique de dire ça. Mathieu Lavagna, dans son livre, à un moment donné, il écrit, dans Soyez rationnel, devenez catholique, il écrit « Il faut que l'enfer existe pour que Dieu soit réellement amour, car l'amour est un acte de la volonté libre, enfin, un acte libre de la volonté. » Mais si l'évangile disait que l'enfer est temporaire et que l'amour de Dieu finit par réenglober tout le monde, Matthieu y resterait croyant et il expliquerait probablement quelque chose comme « Il faut que l'amour triomphe finalement de toute souffrance pour être réellement parfait, car Dieu n'abandonne in fine jamais comme un bon père ses enfants, il les empêche. » Enfin voilà, donc ça c'est un exemple de raisonnement qui est typiquement de la rationalisation de dogmes déjà acceptés, donc avec un biais incroyable, ce qui est logique. Mais comme les chrétiens, ils veulent maintenir l'idée de Dieu qui ne punit pas, qui est bonté absolue, qui est miséricorde infinie, eh ben ils sont obligés de produire des constructions conceptuelles pour dédouaner Dieu, tout simplement. Et quand ça devient trop difficile, on sort des dérivatifs pour pas regarder le problème en face. Mais la difficulté, en fait, c'est pour les croyants d'assumer l'idée que c'est ok pour Dieu d'avoir configuré cette possibilité, alors qu'on a vu que c'était un ensemble de choix arbitraires de sa part. Et du coup, tout un ensemble d'excuses sont trouvées, et principalement deux. Les fausses contradictions pour pas mouiller Dieu, contradictions que ce soit pas éternel, que ce soit changeant, contradictions de refuser l'enfer. Et en revanche, le théologien commet l'invention de vraies contradictions psychologiques ou des affirmations très spéculatives pour charger et culpabiliser l'individu. Par exemple, vouloir une chose qui n'est pas souhaitable, pécher à l'infini. Matthieu, par exemple, Lavagna, quand écrit « Si Dieu forçait les hommes à s'unir à lui, ne leur laissant aucun choix alternatif, alors ils ne pourraient pas être réellement aimants. » Et là, tu affirmes comme ça « Ils ne pourraient pas être réellement aimants. » Mais mec, ton biais, il est tellement gros que tu ne l'aperçois même plus. Mais il aurait suffi qu'il y ait marqué que Dieu force par l'universalité invincible de son amour les âmes à retourner à lui, car il ne laissera aucun enfant périr dans la douleur éternellement, que toi t'écrirais à la minute, t'écrirais l'inverse de ce que tu as écrit. Tu ferais une comparaison avec un bon père qui laisse pas trop de liberté à son fils pour le protéger et qui le garde dans sa maison malgré tout. Il y aurait des tas d'analogies et de métaphores à faire là-dessus. Dieu nous garde dans sa maison contre notre petite rébellion transitoire jusqu'à temps qu'on comprenne, etc., parce qu'on peut pas échapper à l'amour. Et voilà, et c'est tout le temps le même processus.
Un autre exemple, Lavagna, quand tu dis « l'enfer est éternel précisément parce que les damnés ne veulent pas être pardonnés », prétendre qu'un damné ne veut pas être pardonné et en plus éternellement, sachant que l'implication de ne pas être pardonné, c'est la souffrance éternelle et être pardonné, c'est le bonheur éternel, c'est une contradiction logique qui s'oppose à l'existence, à la volonté et aux réflexes les plus élémentaires de tout être humain. Une contradiction logique au même titre qu'un triangle ne peut pas avoir que 5 côtés, pour moi, c'est aussi évident.
Et en plus, t'éludes la question principale qui est celle de l'éternité. D'accord, il veut pas se faire pardonner au début, ok, mais la peine elle est éternelle. comme si éternellement il pouvait pas vouloir se faire pardonner. Et c'est ça qui est absurde. Encore une fois, Mathieu, dans une vidéo, tu fais un résumé de l'argumentation chrétienne où tu fais un syllogisme que tu estimes être de la philosophie. Tu dis « Dieu a créé l'homme libre. La liberté de l'homme implique la possibilité d'accepter ou de rejeter Dieu définitivement. Et si l'homme a la possibilité de le rejeter définitivement, alors c'est logique que ce lieu existe et l'homme se retrouve séparé de Dieu à jamais. Donc l'enfer existe. » Sauf que toutes tes prémices, ce sont des postulats religieux. Dieu nous a créé libre. Dieu et la liberté, c'est une croyance religieuse. Accepter et rejeter Dieu, la logique du pardon, c'est encore une croyance religieuse. Et l'infinité de l'âme ou du lieu ou du châtiment, c'est encore une croyance religieuse. Donc l'enfer existe, c'est encore une croyance religieuse. Absolument tous les mots que tu cites dans ce résumé de l'argumentation chrétienne, que tu dis être de la rationalité, c'est juste de l'intra-religieux, selon le paradigme chrétien a priori considéré comme bon. Donc ce n'est pas de la philosophie. Parce que si tu prétends que tu crois à l'enfer à travers une réflexion philosophique et pas uniquement, comme donc tu le prétends, parce que Jésus l'a dit, ça veut dire qu'en fait, il y a un monde où sans Jésus, enfin sans ta croyance en Jésus, t'aurais quand même produit ces quatre points de ton résumé de l'argumentation chrétienne, juste par la réflexion philosophique. Mais personne peut y croire. De la même manière, Mathieu, que pour que la volonté antécédente et conséquente t'apparaisse comme logique, tu fais la comparaison avec une fille que tu veux d'abord épouser, puis si elle ne veut pas d'enfant, en fait, tu ne veux plus épouser. Volonté antécédente, volonté conséquente. Mais cette comparaison, elle te semble valide parce que tu crois d'abord au dogme, puis à ce dogme, tu y ajoutes la volonté antécédente et la volonté conséquente, puis tu y ajoutes ta comparaison, et en fait, voilà, mais la comparaison, elle reste limitée. C'est une fausse analogie. Ça n'a rien à voir que de le comparer à un dieu qui, finalement, ne veut absolument pas, pour l'éternité, t'éviter des souffrances. Ça n'a strictement rien à voir en termes de qualité et de quantité. Et si moi-même j'avais produit cette analogie et qu'elle était en réalité contraire à ton dogme, tu serais le premier à produire les arguments que je produis pour te contrer. Donc en fait, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que étant donné que tu assumes, lui et tout le monde, hein, Mathieu Lavagna et tout le monde, que vous assumez de croire à cela parce que, avant tout, Jésus l'affirme, autant ne même pas développer de construction et dire que vous y croyez tout simplement parce que Jésus l'a dit. Et en fait, on gagnera du temps, puisque vu que tout le reste, c'est de la rationalisation et pas de la rationalité. Quand le dogme précède la raison, c'est de la rationalisation. Quand la raison précède le dogme, c'est de la rationalité. Vous comprenez ? Neutre. La rationalisation, elle sert toujours à colmater les brèches de la dissonance cognitive. Une femme qui se fait battre par son ami, mari, elle sait au fond d'elle que c'est pas bien pour elle. Mais il y en a qui font de la rationalisation, c'est-à-dire qu'elles trouvent des excuses pour amoindrir la tension mentale dans leur tête. Les croyants avec Dieu, souvent, en plus parce qu'ils se sentent pris en otage inconsciemment, donc il y a une partie syndrome de Stockholm, font de la rationalisation. En islam, ils le font à 99%. En catholicisme, ils le font peut-être à 45%, mais il y en a quand même. Donc, les apologètes, les curés, les entrepreneurs, sur le plan de la psychologie humaine et de la défense des grands postulats métaphysiques en accord avec les principes crédibles de la volonté humaine, vos réflexions, elles aboutissent à des narratifs qui sont vraiment immatures.
L'enfer est la garantie que les méchants seront punis s'ils ne se sont pas convertis.
Vous avez peut-être pas le recul, mais croyez-moi, c'est pour ça que, je le dis vraiment pas méchamment, je veux pas paraître arrogant ou quoi, mais c'est pour ça que les athées, c'est pas qu'ils comprennent pas la théologie, c'est qu'ils l'ont bien compris, mais que ça reste pas crédible pour eux. Et ça, vraiment, il faudrait le comprendre, pour avancer, pour qu'on avance tous ensemble. En revanche, je soupçonne Bonassi, Olivier Bonassi, dans une vidéo, d'avoir parfaitement compris ce que moi je dis, et de l'avoir beaucoup mieux compris que le Cato de Service, que l'abbé Raffray, que Balzac, que Mathieu Lavagna, j'en oublie, je connais pas tous les militants religieux. Bonassi, il a très bien compris, c'est pour ça qu'il force pas sur le truc, lui. Il dit juste, si vous voulez pas aller en enfer, vous irez pas. Il se contente de ça, parce qu'il sait qu'il serait coincé, parce qu'il pense comme moi. Et qu'est-ce qu'il pense ? C'est que, en fait, ça ne pourra jamais être considéré comme bien, d'un point de vue neutre, par un esprit humain, de laisser des âmes dans une souffrance éternelle. C'est ça, en fait, c'est ça le truc. Ça sera toujours perçu comme immoral, à moins de s'empêcher de le dire parce qu'on se sent visé par la menace. La morale, c'est de ne pas laisser de la souffrance inutile, c'est tout. Donc, je sais que la question de l'enfer éternel, elle est profondément compliquée pour le croyant, et c'est pour ça, les gars, que t'as certaines personnes qui espèrent un enfer vide, hein, comme le pape. C'est pas rien, le pape, il l'a dit publiquement, il s'est autorisé à le penser. C'est parce qu'au fond, il sentait bien le problème moral derrière tout ça. Et quand les gens refusent ce modèle, c'est pas par orgueil, ils pensent que c'est peu crédible moralement, rationnellement, donc psychologiquement. Et moi, je n'ai fait durant cette heure qu'expliciter cette intuition. Donc, on a bien démontré que, selon la position catholique, Dieu a créé volontairement un monde dans lequel les âmes sont maintenues dans la souffrance éternelle. Dans cette vision, il n'y a rien d'illogique ou d'impossible ou d'incohérent avec l'idée que Dieu aurait pu choisir de minimiser cette qualité et cette quantité de souffrance. Donc, cela crée une tension et des concepts qui servent de médiation pour la réduire, cette tension, et faire de la rationalisation au lieu de la rationalité. Le croyant est limité par la peur, d'où le pari de Pascal, ce qui est compréhensible, et par le fait qu'il croit à la base. Le sceptique, l'athée, l'agnostique, le libre penseur qui laisse une marge théiste, et même certains chrétiens aguerris mais plus hardis dans leur autonomie intellectuelle, ils sont mécaniquement alertés par cet aspect infini de la souffrance. Donc ils bloquent là-dessus. La miséricorde, la bonté, l'amour est-elle vraiment infinie et absolue? Chacun va définir ce qu'il entend par là, et le dialogue ou l'entente n'est plus possible. Et c'est plus possible tout simplement parce que la nécessité de respecter le dogme fait faire toutes les contorsions intellectuelles possibles et imaginables pour coller à la théorie du dogme. Moi et beaucoup, on pourrait dire, la contradiction logique réside dans le fait que la miséricorde n'est pas infinie si Dieu laisse des entités dans un état nécessairement déplaisant. La finitude de cette miséricorde commence là où prend place l'infinie souffrance de celle-ci. Mais en réalité, quand je dis ça, quand on fait des formules comme ça ou des syllogismes, c'est pour ça que j'aime pas trop en faire, vous pouvez très bien, comme des Legos, replacer le truc, redéfinir les termes et faire coller à votre dogme. Donc moi, c'est pas ça qui me plaît. Ce qui me plaît, c'est de vous faire comprendre en quoi, quand la sensibilité neutre se met réellement en face de tel ou tel problème, il y a tension. Et j'essaye de le faire de la manière la plus franche possible. Si j'avais la preuve que le catholicisme était la vérité absolue, je dirais que j'ai des lacunes intellectuelles, que j'ai mal compris, je fermerais ma bouche et je me conformerais. Il y a plein de gens qui vont regarder cette vidéo en se disant que peut-être Jésus m'entend et que ça lui déplaît. Et moi, je pense l'inverse. Moi, je pense qu'il ne m'entend pas, mais que si c'était le cas, ça lui plairait plutôt que j'essaye d'être franc. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur Jésus et la morale, mais justement, les accomplissements de Jésus sont tellement irréprochables que quand je l'imagine, quand je me fais son portrait psychologique et que je m'imagine discuter avec lui, à aucun moment je lui sens me dire que je suis un bouc, une race de vipères. À la rigueur, si c'était vraiment Dieu, il mettrait une main sur l'épaule en faisant un miracle de ouf. Et il me dirait, petit, vas-y, t'es trop bête, hein, de penser. Voilà. Donc je ferai une autre vidéo sur Jésus, hyper détaillée, hyper exhaustive, voilà. Mais au passage, d'ailleurs, les croyants, l'enfer, il est souvent décrit comme une peine, comme un châtiment. Je ne vois même pas le tabou, parce qu'en nous, on vous dit que c'est contradictoire, parce que vous dites bonté, amour infini, miséricorde infinie. Vous adoucissez la teneur des évangiles sur certains points. Mais il y a des choses que vous atténuez et des choses que vous atténuez pas. Beaucoup d'appelés et peu d'élus, hein, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de gens en enfer qu'au paradis. Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai? S'arracher l'œil si c'est une occasion de chute ou de péché, ça non plus, vous le professez pas. Et bah si c'est vraiment réel tout ça, faudrait s'arracher les yeux, ce serait logique. Parce que c'est rien la vie, les jouissances sur terre par rapport au paradis. Si le fond de votre cerveau reptilien, il y croyait, il ferait ça. Donc il y a aussi ça qui est pas clair. Bref, et tout ça me fait croire que, à l'aune de toutes ces réflexions actuelles, on peut tout à fait penser que la miséricorde, à terme, elle est vraiment absolue. Et que le mal prend fin. La souffrance prend fin. Et moi, je pense que si les chrétiens modifiaient cette doctrine, qui est la plus souvent contestée, ils gagneraient beaucoup d'adeptes. Et si Jésus voyait les progrès de l'humanité, il dirait probablement aujourd'hui que cela ne sert plus à rien de professer cela. Il disait ça pour les dingueries des gens à l'époque, qui avaient le cœur endurci, de la même manière qu'à un moment donné, il disait bien que Moïse vous disait certaines choses parce que vous aviez le cœur endurci. Mais en fait, faut faire ceci, faut faire cela. Bah là, Jésus, il pourrait très bien dire, ouais, moi j'ai laissé l'ambiguïté sur l'éternité parce que vous aviez le cœur endurci. Mais évidemment, mes enfants, vous n'avez pas compris, à travers les lignes, par votre intelligence, que Dieu vous a donné, que mon amour, il est forcément absolu, il vous recouvre tous, il vous recouvrera tous. Non, Bah, et là, moi, si j'étais Dieu, c'est ce que je ferais. Je suis beaucoup trop humble pour penser que moi, j'ai une idée qui économise mieux la souffrance que Dieu ne pourrait pas avoir. Donc, je pense que Dieu l'a évidemment, cette idée. Si on part du principe que Dieu existe, je veux pas trop mélanger, parce que je veux pas confondre. On va dire, ouais, est-ce que t'es croyant ou pas croyant, c'est pas clair, etc. Peut-être que je fais exprès aussi.
Et maintenant, je vais faire un résumé global et synthétique de ma position pour les gens qui voudraient répondre en commentaire. Alors, nous avons vu que prétendre qu'une affirmation est bonne simplement parce qu'elle provient de Dieu impliquerait un arbitraire moral. Cela nous obligerait à conclure que n'importe quelle atrocité évidente pourrait être bonne et devrait être considérée bonne si Dieu l'affirmait. Pour ne pas tomber dans cet écueil, le croyant doit analyser la moralité d'une chose par la rationalité. Tout ce qui concerne le meurtre, le vol, le respect des parents, les grands principes, etc. Le châtiment éternel doit et peut en tout cas donc lui aussi être analysé rationnellement. De fait, il ne viendrait à aucun père humain l'idée de punir éternellement ses enfants. C'est absolument contre-intuitif. Donc, pour surmonter cette difficulté de l'enfer, le croyant doit alors élaborer des incohérences psychologiques, vouloir l'enfer, pécher pour l'éternité, etc., et développer tout un paramétrage ainsi qu'une phénoménologie supposée de l'au-delà, éternité de l'âme, choix binaire à la mort, fixité définitive, pardon, respect du refus du pardon, etc., etc. Ces hypothèses lui permettent de construire des contradictions logico-métaphysiques supposées afin de transformer la peine éternelle en conséquence d'une mécanique plutôt qu'en châtiment immédiat et direct, et total et définitif. Ainsi, l'enfer n'apparaît plus comme l'expression d'un dieu colérique, rancunier, geôlier ou punisseur maintenant éternellement une souffrance inutile, mais comme le résultat nécessaire d'un système dont les prémices ont été préalablement définies pour conduire à cette conclusion. Merci à tous.
Bref, je répète, je suis pas un militant athée, je cherche juste à faire raisonner les gens. Point barre, mes BG Galbé. Point barre, mes BG Galbé. Mais la barre, je veux la mettre haute. Merci à tous, à bientôt, mes BG Galbé.